Vous le savez, le dernier mardi du mois, c'est la chronique européenne, grâce à l'association Braise Europe Finistère, association d'éducation populaire qui nous explique l'Europe. Elle est présidée par Maëlle Cordeau, qui se charge de la chronique du jour. Maëlle, aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur un sujet certes peu séduisant, mais qui est pourtant essentiel, notamment dans la vie de tous les jours.
Effectivement, pour cette nouvelle chronique, nous voulions aborder le thème des fonds européens pour le développement régional. Il est vrai que le sujet peut paraître repoussant et même donner quelques sueurs froides, mais il est, comme vous l'avez justement dit, intimement lié à notre quotidien, que l'on soit français, roumain, suédois ou tchèque. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la Commission européenne propose un budget pour une période de 6 ans. La nouvelle période s'étend de 2021 à 2027 avec un budget proposé et voté au Parlement européen d'une hauteur de 1,824 milliards d'euros. Ce budget comprend ce que l'on appelle dans le jargon le cadre financier pluriannuel, ainsi que le budget Next Generation EU, qui vise, lui, à accompagner la relance et la résilience liées à la crise du Covid-19. Ainsi, tous les États bénéficient de cet appui financier, sauf, et c'est nouveau dans les discussions politiques, les États qui ne respectent pas l'état de droit. Depuis les premières discussions sur ce nouveau budget, on a pu voir la Commission européenne interpeller plusieurs fois la Pologne et la Hongrie en les menaçant de suspendre le budget de relance pour non-respect des règles communautaires.
Une question assez légitime se pose, d'où viennent ces milliards d'euros ?
C'est une très bonne question, et d'ailleurs je tiens à souligner et appuyer mon propos à ce sujet. Le financement du budget de l'Union européenne ne tombe pas du ciel, et sa provenance est bien précise. Il y a parmi les principales sources la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, que toutes les citoyennes et tous les citoyens de l'Union européenne paient dans le cadre d'opérations économiques. Il y a aussi les droits de douane qui viennent des produits issus de l'importation des pays extérieurs à l'Union européenne. Et enfin, depuis le 1er janvier 2021, il existe un nouveau système de contribution basé sur la proportion de déchets d'emballage plastique non recyclés qui circulent dans les États. Et ainsi, il y aura une taxe qui sera appliquée en conséquence. Enfin, la source principale vient des États membres eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la contribution nationale basée sur le revenu national brut, donc le RNB. De cette manière, les États contribuent à la hauteur de leur richesse. Donc, dans des pays comme la France, l'Allemagne ou encore le Danemark, du fait de leur richesse, ils contribuent fortement. On parle alors de contributeurs nets. A l'inverse, dans un pays comme la Bulgarie, le plus pauvre au regard des 26 autres de l'Union européenne, on dit que c'est un bénéficiaire net, c'est-à-dire que l'État reçoit plus qu'il ne donne. C'est un principe de solidarité qui vise à donner à chaque État membre une place sur la scène européenne.
Et comment ça se passe pour la région Bretagne ? Comment est-ce que le budget du développement régional est distribué ?
De manière simple, les institutions européennes effectuent des travaux préparatoires pour définir les grands axes à développer par les États membres au niveau régional. Après, ce sont les régions qui viennent proposer des programmes stratégiques pour chaque fonds disponible qui répondent aux enjeux régionaux. L'objectif n'est pas de rentrer dans les détails de chaque fonds, cela prendrait des heures, mais plutôt d'établir un panorama des domaines d'investissement de l'Union européenne. Pour autant, il faut retenir une idée générale. L'Union européenne, par le biais des fonds, investit directement dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive. Aussi, les négociations étant en cours pour les dernières enveloppes, je n'évoquerai précisément pas les sommes allouées. Il faut juste savoir qu'elles se comptent en dizaines de millions d'euros. Autre élément, la PAC fait partie de ces fonds, donc la politique agricole commune, mais nous en avons déjà parlé dans une précédente émission avec la députée Sandrine Loeffer. Ainsi, il y a en premier lieu le fonds le plus important que l'on nomme le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Ce fonds permet entre autres de favoriser la recherche, l'innovation, les entreprises et la transition numérique avec notamment le déploiement de la fibre à très haut débit. En complément, il y a aussi tout un volet pour le développement des énergies renouvelables et aussi le fait de favoriser l'efficacité énergétique ou encore protéger la biodiversité. Et pour finir d'ailleurs le tour d'horizon du FEDER, on peut aussi parler du volet mobilité qui a par exemple permis de financer le tramway et le téléphérique de Brest ou alors la maximisation des lignes de TGV en Bretagne. Autrement, et aussi, et rien à voir avec le transport, à Quimper, il y a aussi un projet qui vise à accompagner le public dans le changement de leurs habitudes alimentaires pour tendre vers un modèle plus durable. Parmi les autres fonds importants, il y a aussi le FSE, qui maintenant est accolé au FEDER. Le FSE, ou Fonds Social Européen, sert à l'investissement, notamment dans la formation. Par exemple, à Lorient, à l'UIMM, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, donc le centre de formation bénéficie de cet appui, donc le FSE, et permet un meilleur accès aux emplois du domaine aux personnes souhaitant se reconvertir. Il y a un autre exemple, notamment l'association Danse à tous les étages, qui est présente à Brest et à Rennes, qui aide les femmes en difficulté à reprendre confiance en elles en les accompagnant vers la réinsertion professionnelle. En Bretagne, et c'est un choix politique, le FSE a une part importante, ce qui a permis la formation de milliers de personnes.
Il y a quelques mois, Maëlle, on parlait du pacte vert européen qui a pour ambition de rendre l'Union européenne climatiquement neutre. Est-ce qu'il existe des fonds régionaux qui vont dans ce sens ?
C'est vrai qu'il existe aussi des fonds en faveur de l'environnement. Il y a d'abord le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, que l'on nomme maintenant le FEAMPA. Le but de ce fonds est la conservation des ressources biologiques aquatiques, favoriser l'aquaculture durable ou encore l'économie bleue du littoral. Il y a également tout un bloc qui est dédié à la gouvernance maritime internationale. Sur le territoire finistérien, il y a eu un projet, par exemple, de sensibilisation à la population à la qualité de l'eau et au plancton. Il y a eu un autre projet qui visait à valoriser les métiers de la mer. Par ailleurs, il existe aussi le fonds LIFE, qui n'est pas proprement régional pour le moment, mais il contribue nettement à l'appui territorial en matière d'environnement. Ainsi, le parc régional d'Armorique a bénéficié de ce fonds dans le cadre de la restauration des écosystèmes Landes et Tourbières. Il y a d'ailleurs une page internet qui est dédiée à ce projet et qui décrit très bien le déroulement et les enveloppes dédiées. Un autre projet similaire a vu le jour entre 2010 et 2016 pour protéger la moule perlière d'eau douce du massif armoricain. Et au-delà de l'Atlantique, l'Union européenne a aussi toute sa place, puisque en Guadeloupe, il y a aussi eu un projet LIFE, et donc financé par l'Union européenne, pour mener une expérimentation de réintroduction du lamantin dans le lagon. Bien évidemment, il existe aussi les fonds du type Erasmus+, pour la mobilité des étudiants, des apprentis, des professionnels et des jeunes, ou encore Europe Créative pour le milieu de la culture, ou maintenant le programme CERV, donc citoyens, égalité, droits et valeurs, qui valorise la sensibilisation aux questions de citoyenneté et d'état de droit. Mais ces fonds n'ont pas nécessairement de porte d'entrée régionale, comme le FEDER, le FSE ou le FEAMPA.
Est-ce qu'on a des garanties de l'utilité des fonds de développement régionaux et ont-ils eu un impact sur des régions de l'Union européenne ?
D'abord, il s'agit de mesurer la répartition des fonds structurels européens à travers le continent. Par exemple, pour la période 2014-2020, c'était la Pologne qui en bénéficiait le plus, avec 86 milliards d'euros de fonds, soit une somme de 2266 euros par Polonais pendant 7 ans, si l'on rapporte cette somme à la population globale du pays. C'est presque 1000 fois plus élevé que des États comme l'Allemagne et la France, mais en fait cela s'inscrit toujours selon le principe de solidarité. Et pour répondre plus précisément à la question, je propose que l'on s'appuie toujours sur l'exemple de la Pologne, qui a adhéré en 2004 à l'Union européenne. Avant cette adhésion, c'était un pays en pleine reconstruction après presque 123 ans d'absence en termes d'existence étatique souveraine. C'était un pays meurtri par les guerres, où le niveau de vie était faible. Dès son adhésion, beaucoup d'argent européen a été investi, ce qui a permis à la Pologne de bénéficier d'une croissance quasiment constante depuis son adhésion pour atteindre parfois les 6%, soit 3 fois plus que la moyenne de l'Union européenne. Et depuis son adhésion, son PIB a littéralement explosé puisqu'il a augmenté de 90%. Mais on sait aussi que la Pologne n'est pas la championne en matière de respect de l'état de droit. Ainsi, au regard de l'importance du développement économique, notamment grâce aux fonds structurels, la Commission européenne peut mettre en demeure les États afin qu'ils respectent le droit, notamment la règle de la primauté du droit européen. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe depuis plusieurs mois en Pologne. Le gouvernement a réformé la justice et les institutions européennes ont constaté que cela allait à l'encontre du principe selon lequel la justice est libre et indépendante dans les États membres de l'Union européenne. De cette manière, lors de la distribution des enveloppes du plan de relance, la Commission a mis la Pologne et la Hongrie en demeure de respecter la primauté du droit européen. Dans une autre mesure, il arrive de lire des articles de presse qui évoquent notamment, en Bulgarie, l'ouverture d'enquêtes au sujet de détournement de fonds structurels européens dans le cadre d'enrichissement personnel.
Quand on se balade dans les régions européennes, on voit souvent des panneaux Interreg. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Le programme Interreg vise à favoriser la coopération entre les régions européennes en mutualisant leur expérience afin de trouver des solutions communes en matière de transition écologique, de développement économique, rural ou encore urbain. Il dépend du FEDER et la région Bretagne peut en bénéficier au travers de 4 sous-programmes de coopération axés sur l'Europe du Nord et de l'Ouest. Par ailleurs, si ce travail de développement économique se fait au niveau régional, c'est en partie parce que les régions d'un même État membre ne nécessitent pas le même appui financier, tout comme les États membres eux-mêmes. C'est donc plus simple de mener un travail de développement à cette échelle.
Et en conclusion, Maëlle Cordeau, qu'est-ce qu'il faut retenir ?
En premier lieu, que l'Union européenne n'est pas une banque. La preuve, tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une large vision politique rondement menée par les 3 institutions, à savoir la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Aussi, et alors que l'on entend des personnes et des représentants politiques dire que la France perd de l'argent en tant que contributeur net, c'est dans un sens vrai, mais il faut comprendre que tous ces fonds structurels dédiés à des champs politiques spécifiques devront, dans le cadre d'un Frexit à tout hasard, être compensés par l'État lui-même. Par exemple, cela n'a pas été constaté au Royaume-Uni, surtout dans les domaines de l'agriculture, la pêche ou encore l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, la région Bretagne a perçu entre 2014 et 2020 une enveloppe de près d'un milliard dans les domaines de l'agriculture, la formation, l'environnement ou encore l'aquaculture. Et la région Bretagne, ce n'est qu'une région sur les 18 françaises. Cela pose aussi d'autres questions, notamment celle du pouvoir du Parlement européen. En effet, si le Parlement avait la compétence budgétaire et non pas seulement de ratification et que l'Union européenne avait des ressources propres, cette politique pourrait être plus ambitieuse, d'autant plus que les europarlementaires sont les représentants directs des habitants des régions européennes.
Merci Maëlle Cordeau, président de l'association Braise Europe Finistère, qui nous explique l'Europe une fois par mois. La prochaine et dernière chronique de la saison, ce sera le 28 juin, comme toujours, en deuxième partie de l'EM.